Oui, bravo Daniel Mermet, hein. Après une émission sur les marginaux qui refusent le travail, une sur les maladies professionnelles, hein, qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Elle s'appelle morale des honnêtes travailleurs qui se lèvent à 5h du mat et qui contribuent à l'augmentation du PIB par leur courage. Vous salissez vraiment tout, hein. Comme disait le sympathique auditeur sur le répondeur de gauche, là, enfin, pas le répondeur de gauche, l'auditeur, qui disait pleurnicherie, encore des pleurnicheries. Hein, le principal, c'est de créer de produire de la richesse. Hein. Bon, c'est cynique ce que je dis, hein, c'est dur. Mais c'est pourtant ce que sous-tendent tous les discours sur la sacro-sainte croissance. C'est la négation de l'humain, c'est le don sacrificiel sur l'autel de la production. Mais le sacrifice est toujours pour les petits, évidemment. Pendant toute cette émission, j'ai pas pu m'empêcher de penser au message de ce monsieur-là. Il a le droit de penser ce qu'il pense, hein, et de dire ce qu'il dit, évidemment, la question n'est pas là. Mais au moins qu'il ait le reconnaître, qu'il ait le courage de reconnaître qu'il a changé. J'ai changé. Hein, maintenant, il est de droite. Faut pas qu'il ait honte de ça, hein, ça arrive même aux gens très bien. Hein. Voilà, bon, c'était Sandrine de Savigny-sur-Orge.
Ouais, salut Daniel, salut à tous. C'est Hervé à Brest. Il y a des fois, c'est dur ton truc là. Et moi, j'ai fini par relever une des dernières phrases qu'il a dit. Obligé de travailler à en mourir pour gagner sa vie, c'est sinistre. Tu vois, en ce moment, je suis en train de lire Dreyfus, c'est innocent, un bouquin, bon, et on parle d'Émile Zola. Ce quadragénaire fait du Zola sans le savoir. Enfin, je sais pas, mais bon. Allez, salut.
Oui, bonjour, c'est Serge. J'aimerais apporter un témoignage à l'émission Là-bas, j'y suis, pour avoir subi moi-même une maladie professionnelle suite à l'utilisation de produits dérivés de benzène type fluoré et des choses comme ça. Travaillant pour l'aérospatiale et plus principalement par le circuit Airbus Aviation, j'ai été amené à utiliser à la fois du trichloréthylène ou des choses comme ça pour laver les pièces régulièrement. Et à proximité de nous a été utilisé du dioxane pour diluer des produits anti-friction, anti-statiques pour les pièces d'aviation. Le ciel était souvent très étoilé, mais aujourd'hui c'est moi qui suis épinglé peut-être à une de ces étoiles. Et j'aimerais tellement que les gens se battent ou que la situation soit améliorée pour ceux qui travaillent dans des conditions aussi terribles que ça.
Eh bien bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. L'émission d'hier a réveillé en moi le souvenir d'un article que j'avais lu dans le plan B et qui expliquait dans le détail que les entreprises ont évidemment leur caisse en ce qui concerne les maladies professionnelles et que si tous les accidents, toutes les maladies professionnelles étaient considérées comme d'origine professionnelle et que cette caisse indemnisait les gens au lieu que ce soit la Sécu, eh bien, tout simplement ça comblerait le trou de la Sécu, donc référence dans le plan B d'il y a un ou deux mois, j'ai plus exactement le numéro en tête. Voilà, c'est un autre volet de l'histoire, cette espèce de la Creuse. Salut.
Mais écoute, ça, je savais de toute façon qu'il faut pas leur faire de cadeaux, patron. Eux, ils nous en font pas. La preuve encore aujourd'hui. Alors, je sais pas moi, il faut se réveiller là. Mais il faut pas leur faire de cadeaux. Ils méritent rien. Ils méritent rien. Et puis bon courage à, je m'en rappelle plus là, Patrick là, je suis écœuré, enfin bon. Allez, merci Daniel et salut, merci beaucoup, ciao.
Beaucoup de messages hein, sur le répondeur de la Basse-Ulysse suite à l'émission d'hier sur la santé au travail et plus précisément le cancer professionnel. Travailler peut nuire gravement à votre santé, on le sait depuis longtemps, mais pas très très précisément, alors que les accidents du travail à travers le monde, nous dit-on, auraient tendance à baisser. On voit pas très bien comment c'est calculé, mais enfin acceptons cet augure. Les maladies professionnelles, par contre, auraient tendance à augmenter, notamment les cas de cancer professionnel. Il y aurait 20 000 cas de cancer professionnel par an dans notre pays, sur 2 500 000 salariés qui sont exposés à des matières cancérigènes, des produits cancérigènes. Ce qui fait 20 000 cas de cancer professionnel par an, eh bien, depuis 1981, Ça ferait donc autour de 500 000 décès par cancer professionnel. Or, je prends 1981 parce que c'est le début de l'épidémie du sida. Or, depuis 1981, le sida a tué en France 35 à 36 000 personnes. Or, on parle énormément du sida, et on a bien raison, à juste titre, mais on parle beaucoup moins, sinon pas du tout, de ces cancers professionnels. Voilà pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 16 heures dans la Bastille. J'y suis à nouveau sur ce sujet, sur ce thème, avec un reportage de Pascal Pascariello. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour les ONG, donc c'est pour annoncer un café repère, le seul de Haute-Garonne. Donc quand vous arrivez à Toulouse, et vous continuez tout droit vers les Pyrénées, c'est à Marignac, juste avant le Val d'Aran, près de Saint-Déa, au café Sandaran. Le 15 de chaque mois, on vous attend à 19h, on apporte de quoi partager à manger ensemble, et puis ensuite discussion. Le prochain, c'est donc le jeudi 15 mars. Jean-Pierre Petitgras de la coopérative du café Moudvitz interviendra en première partie. Ensuite, comment s'organise-t-on localement, hein? Des groupements alternatifs, d'achat également alternatif, contact avec des producteurs, etc. S'organiser autrement et puis vous faire ensemble, quoi. Alors, si vous êtes près de Marignac, on vous attend le jeudi 15 mars au café Sandaran. À 19h, à bientôt.
Allô, bonjour Daniel. Ouais, écoute, j'appelle là parce que je suis vraiment dégoûté du projet de Sarkozy là sur l'immigration et l'identité nationale. Les trois I de Sarkozy, l'insécurité, l'immigration et l'identité. Il délire complètement ce mec-là, et en plus avec ça, c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt. On accuse les immigrés d'être les maux des Français et de la France. Alors que le chômage, tout ça, c'est les préoccupations principales des Français. Et encore une fois, on reporte ça, le champ médiatique pivote, se biaise du côté des immigrés, comme d'habitude. Je tiens aussi à préciser que avec les mesures CCDA, l'immigration légale, Sarkozy avait déjà rendu le regroupement familial quasiment impossible. Et voilà, c'est vraiment immonde ce qui se passe. Surtout que l'Europe et la France vieillissent, et qu'on aura besoin d'immigrés. C'est une évidence, tout le monde le sait, les flux migratoires qui privent les pays exportateurs de leurs forces vives seront maîtrisés que lorsque les échanges entre le Nord et le Sud cesseront d'être une forme de pillage organisé au profit des multinationales abritées par les pays dits développés, quoi.
Oui, bonjour. Nous annonçons une conférence de Christian Vélo sur les OGM le vendredi 16 mars à 20h15, 5 de Villejean à Rennes. Donc, organisé par Association La Bonne Assiette, 02 99 32 18 87. Merci, au revoir.
J'ai travaillé à en mourir pour gagner sa vie. C'est sinistre.
Dans la campagne actuelle anti-tabac, on mobilise les entreprises pour sanctionner les salariés qui fument, alors que les mêmes entreprises peuvent en toute impunité les exposer à des cocktails de cancérogènes sans que personne n'y voit un problème.
Retour en France avec ce rapport accablant émanant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Un salarié sur 10 risquerait un cancer lié à son travail.
Je préfère être encore chômeur que travailler pour la mort.
Madame Parizeau, présidente du MEDEF, elle a dit une phrase terrifiante. La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le saurait-il pas ? Ce qui est une apologie perverse, mais une apologie quand même de la barbarie.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base, et j'y suis avec Pascal Pascariello. Un salarié sur 10 risquerait un cancer dû à son travail.
son mari était tombé malade et il est mort jeune, à 53 ans. Ça fait presque 9 mois là. Il a eu comme une rhume, il est enrhumé, après il a été voir ça. Le médecin, il a fait les examens. Le jour qu'on a été chez le médecin, il nous a lancé comme quoi il a eu un cancer au sinus. Il est rentré, il s'est fait opérer, mais rien. Moi, je ne savais pas, j'ai jamais eu de cancer, je ne connais pas, c'est quoi le cancer. Quand le médecin m'a dit le cancer, j'étais choquée dans mon cœur. Elle a fait la radiothérapie, elle a fait la chimio, elle a fait tout son possible, elle a fait tout. Qu'est-ce que lui dit le médecin, elle le fait, jusqu'à la fin. Mais après, ça y est, il est mort. C'est dur. C'est trop dur. Ça fait 30 ans de mariage, moi et mon mari, on était bien et tout. À la fin, quand elle est partie, elle m'a laissé, moi et mes enfants, ça me fait mal le cœur. Hein.
Mais on voulait d'être partie.
Ah oui. Il y a le temps encore, moi et lui, de passer avec lui. On voulait voyager, on a dit, les enfants, ils vont grandir et nous, on voyage.
Histoires comme celle-là par an en France. 20 000. C'est énorme et c'est méconnu. Pourtant, ces chiffres sont avancés par l'Institut de veille sanitaire, par l'Institut national de la recherche, par nombre de chercheurs, cancérologues, toxicologues, spécialistes des questions de santé et de travail. Et pourtant, ces drames, parce qu'il s'agit bien de ça, ne sont pas connus du grand public. Si, on sait, bien sûr, on publie chaque année des rapports, on est informé. Mais la sensibilisation s'arrête là. Alors, pourquoi quand même? Pourquoi est-ce que cette... Par exemple, ce que disait cette chercheuse, Annie Thébault-Monique, effectivement, dans une entreprise, on peut tout à fait sanctionner des salariés qui fument, ce qui, à mon avis, est tout à fait justifié pour ce qui me concerne. Moi, Daniel Mermet, fumeur repenti, on peut donc sanctionner des salariés qui fument, alors même que l'entreprise peut en toute impunité exposer les salariés à des produits cancérigènes. En toute impunité, on verra que pas du tout. Il arrive dans certains cas où on observe des séries de cancers de toute évidence liées à des expositions à des produits cancérigènes ou cancérogènes, eh bien, il peut y avoir des poursuites et les entreprises se trouvent condamnées. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que dans ces cas de cancer, 70% de ces cancers concernent des ouvriers et non pas les cadres des entreprises. Pourquoi ces silences? Pourquoi ces phénomènes qui sont méconnus, mal connus? Il y a des raisons qui sont dues évidemment, qui sont de nature économique, mais on va voir aussi qu'il y a des raisons qui sont dues à la maladie elle-même. Souvenons-nous de l'amiante. On voit qu'il n'y a pas que l'amiante, mais rappelons que l'amiante, selon Marcel Goldberg, le professeur Marcel Goldberg, fera dans les années prochaines, jusqu'en 2030, d'ici à 2030, de 50 000 à 100 000 décès. C'est que bien souvent, ces cancers se déclarent bien après l'exposition des travailleurs aux produits. Et donc, il est difficile de retrouver l'origine, la filiation, d'apporter les preuves aussi bien du point de vue du droit que du point de vue de la recherche. C'est toutes ces questions qui nous intéressent jusqu'à 16h dans la Bastille.
pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent, Oni Truffelbulle. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en lis pas plus faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes, et les pensifs penseurs, tant de choses à voir, à voir et à s'entendre, tant de temps à attendre, à chercher. Je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras. Deux grenouilles bancroches. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
C'est le médecin, c'est le chef de service. Ils ont dit que c'est un cancer. À cause de son travail, à cause de Nordic Aero à Roissy. C'est une petite société de nettoyage. Il y a un produit chimique qui est fort. J'ai vu mon mari avec ses yeux tout rouges. J'ai dit, pourquoi tes yeux sont rouges comme ça? Il me dit, les produits qui rentrent dans mes yeux, qu'on fait le Karcher pour laver, nettoyer bien comme il faut, il me dit. Jusqu'à quand on a fait les examens et tout, le médecin il a dit, il y a un produit chimique qui est fort. Toute sa vie, il a travaillé, mais il n'a jamais eu de problème. Il a continué à faire sa vie, mais il venait jeune ici en France et lui, il est arrivé en 73 en France. Et moi, après lui, j'ai arrivé à 77. On était amoureux. Et après,
on s'est rencontrés où?
Au Maroc, à Taza. Et après, lui, il est venu ici. Après, il m'a ramené. J'ai eu mon enfant. Et elle a travaillé, après elle a fait des enfants et elle a travaillé chez Citroën, elle a travaillé à la chaîne. Et après elle a travaillé dans le gardiennage, après elle a travaillé dans le bâtiment et trace les routes. Après elle a travaillé Carrefour, elle a fait gardien. À la fin, elle a travaillé chez Roissy, elle lave les avions. Elle a travaillé sa vie ici, en France. Elle venait jeune ici, en France, et elle a terminé à 53 ans. Et à la fin, il est mort, il nous a laissé. Lui, il est parti, tout, il est parti avec lui. Et moi,
des histoires comme celle-là, on peut en entendre beaucoup. Beaucoup parmi ceux qui sont exposés à des produits cancérigènes, cancérogènes dans leur travail. Monsieur Nahal est mort en lavant les avions. Pourtant, les savoirs scientifiques, médicaux, aujourd'hui, permettent de repérer et de localiser les facteurs qui altère la santé par le travail. Pourtant, on constate malgré tout que la mise en danger délibérée d'autrui dans les modes d'organisation du travail, ainsi que dans les politiques publiques, rendent légitimes ces mœurs, on pourrait presque dire. Comment expliquer cette contradiction ? Eh ben, on le sait, il faut toujours plus de profit, toujours faire baisser les coûts de productivité avec des décideurs et des managers qui n'ont que ce rôle et à qui incombe la responsabilité d'abaisser sans cesse les coûts de production et qui, pour ce faire, ont souvent recours à des sous-traitants. Parce que les sous-traitants, bon, ben, ça, ils se débrouillent, ils font le sale boulot très souvent. Alors, pourquoi aussi est-ce que si on avance, comme on le vient de le faire, le chiffre de 20 000 cancers professionnels par an, et c'est pas une estimation vague d'un institut ou d'une association perdue dans un coin, c'est vraiment un ensemble de recherches qui parviennent à ces chiffres, qui nous permettent d'arriver à ces chiffres. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de reconnaissance chaque année, puisqu'il n'y a que entre 500 et 600 cas de cancers professionnels qui sont reconnus? Avec nous, comme hier, Annie Thébault-Meuny, auteure de « Travailler peut nuire gravement à votre santé ».
Pourquoi sur 20 000 cancers, on se retrouve avec une déclaration effective, enfin une reconnaissance au niveau de la sécurité sociale, seulement de 600 cas par an de cancers professionnels?
En fait, ce déficit, il est avec toutes ces étapes d'invisibilité. L'invisibilité entre le moment où vous êtes exposé, enfin il y a 30 ans souvent, entre le moment où vous êtes exposé et le moment où survient la maladie. Il y a l'invisibilité liée au fait que les médecins ne savent pas. Il y a l'ignorance dans laquelle sont tenus les salariés parce que l'obligation d'information n'est pas respectée par les employeurs. Et c'est un très gros problème pour obtenir des indices de cette exposition. La plupart du temps, quelqu'un qui se retrouve avec un cancer, s'il va vers son ancienne entreprise pour demander les expositions, on lui dira « mais non, vous avez été exposé à rien ». Le CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité conditions de travail, c'est la même chose, il n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Hein. Et il n'y a nulle part, l'inspecteur du travail n'est pas au courant des produits toxiques. Les fiches de médecine du travail, bien souvent, sont très incomplète sur cet aspect-là. Mais avec tout ça, quand on arrive au dernier stade qui est la déclaration de la reconnaissance, on manque des éléments pour le faire. Parce qu'il suffit que l'employeur dise il n'a pas été exposé et la demande est rejetée. Parce que la preuve, à ce moment-là, revient à la victime. Or, si l'employeur a fait disparaître toutes les preuves, comment la victime peut-elle en retrouver? Alors, c'est là où parfois, il faut passer, c'est ce qui s'est passé pour l'amiante, par des attestations, des témoignages de collègues, avec toujours cette exigence de preuve du côté de la victime. Et c'est très injuste.
Quand il est parti, c'est moi qui fais tout. Pour les petites, pour... J'ai appris.
J'avais appris quoi, par exemple ?
La responsabilité. Mon mari, c'est un ouvrier, il ne peut rien faire, mon mari. Il ne peut rien faire devant un patron. Et le patron, il ne veut pas reconnaître. La sécurité sociale, il ne veut pas reconnaître. Et le patron, il est tranquille. C'est un patron, hein. Il est riche, mais les autres, c'est des pauvres. Je suis dégoûtée des fois, mais obligée que je me batte jusqu'au bout. C'est pour son honneur, hein. Moi et mes enfants, tous, les 7 enfants, ils pleuraient. Ils disent que mon père, il a travaillé pour ça, pour nous. Et maintenant, regarde l'état où il est à cause de ce travail-là. Ça fait 3 ans qu'il était à l'hôpital. Il me dit, j'ai pas de vie, je veux laisser mes enfants. Il était pas bien et tout.
Si j'aurais 20 ans, un truc comme ça, je serais partie. J'aurais donné son patron. Mais j'ai que 15 ans et je ne veux pas encore les dénoncer. Parce que C'est à leur place, j'aurais vraiment honte de faire ça. Franchement, j'aurais très honte. Honte de lâcher une personne comme ça qui a été malade pendant 3 ans. Ils sont jamais venus à l'hôpital pour demander de ses nouvelles, rien du tout. C'est comme si c'était un chien pour eux. Il a travaillé jusqu'au bout, mais à la fin, ils sont même pas venus du tout le voir. C'était mon père. Ouais. C'était mon père. On n'avait même pas profité du tout avec lui. Presque tous les jours, il travaillait et il se réveillait pour nous le matin. Et il nous racontait comme quoi il essuyait les avions, il les nettoyait très bien. Il ne faut pas qu'un avion parte sans qu'il n'ait pas nettoyé bien les vitres à l'extérieur, à l'intérieur. C'est un joli métier, mais je suis très énervée contre les personnes de son travail. Je suis très énervée. Mais je suis très énervée après. Même là, maintenant, quand on veut lui faire montrer nos notes d'école et tout, il n'est pas là pour voir. Quand il y avait la réunion des parents, c'est lui qui allait avec moi, c'est lui qui allait. Voilà. Et là, il est parti. Et maintenant, quand on entend la mort, c'est choquant.
D'un chagrin, j'ai fait un repos. Au coin de moi, je nous regarde. Et on a tout pour être beau, même si le temps nous retarde. Humain, c'est joli après tout. On travaillera nos rencontres pour unir les sages et les fous, lire la même heure sur nos montres. C'est rien, c'est la fatigue. Si on a peur encore du noir, si on se cache, si on s'endigue, dès demain, on retournera voir. On peut bien pleurer dans nos bras. Hier, on se serrait les poings. J'ai pas senti qu'il faisait froid. Je reviens vite. Les copains. Enfin, c'est une pause. J'ai toujours eu l'envie des autres de sourire à celui qui ose, de fou rire au moindre des nôtres. C'est juste que c'est la gueule au monde. Je sais, on fait jamais assez. On en a bouffé de l'immonde. Et puis après, ça va passer. Laissez-vous, lumière allumée, j'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir je vais pleurer, ben demain, je vais revenir.
Le scandale des travailleurs exposés aux produits cancérogènes. C'est une dénonciation régulière, mais dans un coin, dans la marge, un petit peu, c'est évoqué. Pourtant, de 15 000 à 20 000 personnes, 20 000 travailleurs, chaque année, succombent à ces cancers, soit 3 à 4 fois plus que les accidents de la route, auxquels on accorde une très grande importance, à juste titre. Alors, pour mettre fin à cette hécatombe, les scientifiques cherchent à repérer de façon exhaustive dans les différents métiers les concentrations anormales de malades. Il faut dire que c'est pas une affaire tout à fait nouvelle. Il faut pas croire que c'est quelque chose qui est récent. Le premier cancer professionnel à avoir été identifié, c'était en 1775. À Londres, et c'était un cancer des testicules qui se déclarait chez les ramoneurs. Et 2 siècles plus tard, le progrès de la recherche a permis de mettre en cause le benzopyrène, ce qui est un goudron contenu dans la suite des cheminées.
C'est des choses quand même qu'on sait depuis un certain temps et qu'on observe depuis un certain temps, ce qui n'empêche pas, encore une fois, les employeurs, les entreprises, de laisser en toute impunité, il faut le rappeler, les personnels, certains employés, certains salariés à certains postes exposés à ces produits. Alors, j'ai parlé de... On a donné la parole à Annie Thébault-Moni, cette chercheuse, et qui a créé une association avec d'autres chercheurs, d'autres spécialistes concernés, pour essayer de soutenir d'abord les ceux qui sont blessés, ceux qui sont touchés par ces cancers, et surtout de les aider à identifier l'origine de leur cancer et comment ils en sont arrivés là pour obtenir évidemment réparation et reconnaissance, au moins pour les familles. Rencontre avec Christophe qui travaille dans cette association.
Christophe, expliquez-moi.
Moi, je suis chargé d'études au GISCOP, le groupement d'intérêt scientifique sur le suivi de cancers d'origine professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par Annie Thébault-Moni, directrice de recherche à l'INSERM, il y a environ 2-3 ans. Et aujourd'hui, on arrive donc à un enregistrement d'environ 800 patients dans ce dispositif, et ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de connaissances sur les expositions professionnelles aux cancérogènes.
Prenons un exemple, puisque vous connaissez bien les dossiers de Monsieur Nahal.
Monsieur Nahal, il a été admis dans un hôpital pour un cancer. C'est à ce titre, en fait, qu'il a signé un consentement pour pouvoir participer à notre étude. Donc, on va voir les patients, on les interroge sur leur parcours professionnel. Et on fait le recensement de l'ensemble des emplois qu'ils ont pu avoir au cours de ce parcours.
D'accord. Dans le cas de Monsieur Nahal, Christophe, qui travaille lorsqu'il nettoie les avions pour un sous-traitant d'Air France, Nordic Aero, les experts, ils pensent qu'il y a quoi comme produit cancérigène auquel il est exposé?
Là, principalement, c'est les détergents qu'il emploie pour faire le nettoyage de l'avion. Dans ce détergent, c'est un peu la boîte noire. On ne sait pas bien quels sont les composés qu'il y a à l'intérieur.
Là, vous allez l'aider.
Si vous voulez, on est face à une injustice, puisque malgré l'ensemble des recours qui ont été employés, il n'a pas été reconnu. En fait, c'est ça qui est très gênant, c'est qu'il y a très peu de tableaux par rapport à l'ensemble des produits qui existent et qui sont mis sur le marché et qui sont susceptibles d'être soit toxiques, soit cancérogènes.
Alors dans tout cela, évidemment, les industriels, les employeurs ont leur part de responsabilité, lourde responsabilité, mais il y a aussi évidemment le choix de l'État qui doit être celui évidemment de l'intérêt général, et notamment bien sûr l'intérêt des plus vulnérables, tout en encourageant le dynamisme économique. Mais selon Annie Thébault-Moni, l'État en l'occurrence a fait d'autres choix.
L'État a fait le choix, donc les gouvernements successifs, hein, bien sûr. Le choix a été fait de ne plus reconduire les équipes de toxicologie industrielle qui existaient dans les années 80-90. Ça veut dire qu'on n'a pas de recherche qui permette, par exemple, de tester la toxicité des produits industriels. Et puis, il y a eu une influence très pernicieuse des industriels dans les instances qui décide de à quel moment est-ce qu'on décide qu'un produit est cancérogène. Est-ce que c'est au moment où on voit certaines propriétés dans les expérimentations animales ou dans les expérimentations sur la cellule, ou est-ce que on attend de compter les morts? Et en fait, le choix qui a été fait, c'est d'attendre de compter les morts. C'est-à-dire que les industriels ont mis la main sur la recherche en santé publique sur tout ce qui concerne la toxicité des produits industriels. Alors, ils avaient mis sous le coude les résultats de recherche montrant la cancérogénicité de l'amiante. Ils ont fait la même chose, ils font la même chose pour tout ce qu'ils peuvent maîtriser. C'est eux qui financent la recherche. Si les résultats ne leur sont pas favorables, il y a des clauses de confidentialité qui font que les résultats ne sortent pas. Dans les années 70-80, le choix a été fait, non pas de se mettre autour d'une table et d'essayer de maîtriser les risques, mais bien de les sous-traiter. Alors, l'exemple, je dirais, emblématique, c'est la maintenance des centrales nucléaires, qui est à 80% sous-traitée. C'est une situation qui n'est pas réservée à l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que tout le travail de maintenance, qui est le travail dangereux maintenant, ce travail-là est sous-traité et les risques sont invisibles, comme les travailleurs eux-mêmes sont invisibles.
Et donc on se retrouve dans une espèce d'échelle où chacun enlève sa responsabilité du jeu.
Absolument, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation où le responsable est toujours l'employeur du point de vue du Code du travail. Parce que à partir du moment où il y a une responsabilité pour une mise en danger d'autrui, c'est celui qui met l'intégrité de la personne d'autrui en danger qui est responsable. Le problème, c'est effectivement que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire Air France, EDF, ils font tous la même chose, c'est-à-dire que ils sous-traitent le travail, ils sous-traitent la fabrication, mais avec des spécificités très très rigoureuses. Et donc les employeurs de la sous-traitance se trouvent dans la contradiction entre appliquer le code du travail qui dit il faut substituer un cancérogène par un produit non cancérogène. Et puis le donneur d'ordre qui dit, si vous n'utilisez pas les produits que je vous impose, je donnerai le marché à une autre entreprise. Donc tout ça se fait dans la sphère des relations marchandes entre les entreprises, et plus dans le cadre du contrat de travail, avec les garanties quand même que donne le droit du travail.
Alors, Monsieur Nahal est mort avant les avions, c'est-à-dire qu'il travaillait dans ces gigantesques hangars qu'on aperçoit à Roissy, par exemple, ou à Orly, où on nettoie les avions, parfois on y fait des travaux de peinture à l'extérieur, et on a voulu, avec Pascal Pascariello, aller voir ceux qui travaillent toujours dans cette entreprise, qui d'ailleurs depuis a changé de nom, elle s'appelait Nordic Aero maintenant, elle s'appelle Gomme Proté, et voir un petit peu si ça a changé depuis la mort de Monsieur Nahal. Rencontre avec Jean-François Guéral de la CGT.
Monsieur Guéral, Jean-François, c'est ça, hein?
Oui.
Donc on est rentré dans ce bureau pour être tranquille, parce que sinon on ne peut pas rester sur le site de Roissy ou d'Orly.
Oui, voilà, ça me dépasse de voir. On nous avait dit qu'il avait eu un cancer des os, mais on ne savait pas vraiment.
Et parce que là, je viens de vous dire que Monsieur Nahal, donc Monsieur Mohamed Nahal, de votre entreprise, dont j'ai vu la femme, est décédé maintenant.
Oui, moi j'étais au courant, puisqu'on avait été avec quelques personnes justement à son enterrement. On savait qu'il avait été gravement malade, mais de quel cancer, j'en sais pas plus.
Expliquez-moi, donc vous apprenez qu'il est mort d'un cancer des sinus?
Je l'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas, je savais que c'était un cancer. Rien que vous m'ayez dit le nom, et que la seule chose qu'on savait, c'est qu'il avait un cancer, comme n'importe qui peut avoir. Là, je l'ai appris vraiment, je sais maintenant de quoi il est mort. Je sais de quoi il est décédé, ce pauvre gars.
Et donc, Monsieur Nahal, les toxicologues qui se sont occupés, c'est une association qui s'est occupée de son dossier, on montrait qu'en fait, en nettoyant les avions, non seulement on utilise des produits très toxiques, et en plus, il y a un risque de se prendre toutes les poussières qui reviennent, y compris les chromates de la peinture des avions.
Là, il y a un gros problème. Si on nous donne des produits pour nous envoyer à la mort...
Et vous, quand vous nettoyez les avions, vous avez un masque?
Normalement, on a des masques, mais c'est sortir avec un scaphandre. Et c'est impossible de travailler. N'importe quelle personne ne vous dira que c'est impossible. Donc on n'aurait pas les protections adéquates. Voilà quoi. Je préfère en arrêter là. Excusez-moi.
Non mais expliquez-moi quand un moment sur vos conditions de travail. Moi j'ai besoin
de... Non mais je préfère, on verra par la suite demain. Parce que je suis désolé. Là ça me ronge. Et là j'ai pris un coup dans le moral. Parce qu'un mec il est mort pour rien. Et là c'est grave.
Mais vous étiez pas du tout au courant.
Pas du tout. Là je l'ai appris par vous. Je l'ai vraiment appris par vous. Honnêtement. Je vais me rapprocher par rapport à la famille de Mohamed Nahal pour aller justement dénoncer vraiment loin cette chose.
Mais ces produits, vous saviez qu'ils étaient très toxiques?
On savait qu'ils étaient toxiques, pas très toxiques. Parce que moi, ça m'est arrivé, et pas mal de mes collègues, c'est arrivé. Si on s'en prenait dans les yeux, bah, c'était directement à l'hôpital. Mohamed Nahal, je crois qu'il est resté 3 semaines, une chose comme ça, avec les yeux gonflés. Mais on pensait pas que ça allait jusqu'à dans les poumons, des choses comme ça. Là, c'est... Ça a bouffé un mec. Moi, j'arrive pas à comprendre que la direction ne nous a pas prévenu directement, nous a rien dit, nous a... Pour moi, elle a menti, elle a triché. Maintenant, avec le nouvel employeur, on voit l'inspecteur du travail, donc un souci en bris. Et moi, je le connais pas personnellement.
Il est jamais venu faire une inspection sur le site?
Jamais. Jamais sur le site. Et justement, quand on a des produits dangereux, Je sais même pas s'il est au courant de tout ça. C'est dur de le savoir par quelqu'un d'extérieur. Vraiment, je tombe de haut, là. C'est bien beau de travailler, mais si dans 20 ans, ou même moins que ça, je décède, je laissais quoi, mes enfants? Du travail? Ça m'intéresse pas. Je préfère être encore chômeur que travailler pour la mort.
Prévention, on parlera de sécurité, on parlera aussi de substitution, de produits de substitution à ces produits reconnus comme cancérigènes. Là, on va à Orly, dans un de ces hangars gigantesques ateliers où on repeint, on décape et la peinture des avions, et où se côtoient aussi bien des salariés d'Air France et que des salariés des boîtes de sous-traitance. On a vu le rapport qui existait entre les deux.
Jackie, vous avez longtemps que vous travaillez pour Air France ?
Moi, ça fait 35 ans. Voilà, mais donc j'ai fait 25 ans de peinture. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai passé un CAP de mécano, et voilà.
Et vous, Pascal ?
Ouais, pareil, ça doit faire 33 ans.
33 ans ?
Ouais, je suis mécanicien depuis toujours.
Alors, donc, ça y est, on va arriver dans le décapage de l'avion, c'est ça ? Ouf ! Ah, c'est étonnant de voir, il y a toutes les peintures qui dégoulinent.
Ah oui.
Je souffle sur votre visage pour enlever toute la poussière, ou ça va ?
Non, ça va pas partir comme ça, parce que j'ai mis de la vaseline, et puis ça permet de protéger la peau, quoi. C'est épuisant, c'est physique, ouais. Au niveau de la santé, c'est clair que peu importe le boulot qu'on fait, on en prend toujours un coup. Mais là, il faudra que je bosse.
Je vous laisse bosser.
Bon, nous, on peut exiger qu'il y ait un suivi. On peut, bon, ça fait des années qu'on réclame pour certains secteurs. Si on a des syndicats, on peut intervenir. Dans les boîtes de sous-traitance, où il y a, comme c'est des sales boulots quand même, il y a un turnover important. Ils peuvent ramasser des cochonneries pendant quelques années, après faire un autre boulot. Et puis dans 15 ans, ils vont découvrir des maladies. Qui seront issus de ça, quoi. C'est pas dangereux, mais le chef, il nous dit restez pas trop longtemps là, vous allez attraper la sieste.
Ça prend un certain temps, ça arrive pas tout de suite.
Les effets à court terme, c'est quoi si je respire tout ça ?
Peut-être dans les années à suivre, vous risquez d'avoir des petits problèmes, ou des gros problèmes surtout.
Hein ? Vous pensez à quoi justement ?
Je pense pas, moi j'évite de penser à ça, parce que sinon on serait malade souvent. Non, mais bon, c'est vrai que tous ces produits-là, c'est pas tellement recommandé. Hein. Mais bon, il faut quand même mettre les protections. On a les masques et tout, mais on a tout le temps le solvant qui est volatilisé. Et en fait, on respire de temps en temps, comme la poussière et tout.
Tête de mort, c'est les produits qui sont cancérigènes ?
Ben oui, c'est une tête de mort, oui.
Mais il n'y a pas marqué à côté « peut donner le cancer ».
Ah non, on nous met jamais que « peut donner le cancer ». On nous dit que ça fait mal quand on l'absorbe. C'est marqué « substance et préparation provoquant de graves désordres aigus ou chroniques ». Ou la mort après inhalation,
même la mort.
Ingestion, pénétration, absorption par voie cutanée ou systémique. Et donc voilà, là on a l'exemple des produits qu'on utilise aujourd'hui.
Tous ces produits sont toxiques.
Ça, c'est une graisse qu'on met sur les écrous. Donc n'importe quel mécanicien va utiliser ça. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là, vous voyez ?
Tête de mort à base de silicone, il n'y a pas marqué, hein, cancérigène. Non, c'est pas
marqué. Mais il y a un produit cancérigène à l'intérieur de ce produit. Aucun couvercle sur les peaux, donc ça. Ça part dans la nature. Ça, c'est toxique aussi. C'est un produit nettoyant pour les taches, des trucs comme ça. Pour nettoyer l'avion, enfin, les trains volés, les volets. Donc, c'est la société de sous-traitance qui fait ça maintenant. Puisqu'avant, c'était nous. Et je pense que la direction s'est aperçue qu'il y avait danger de santé pour les personnels. Ils ont préféré fermer les yeux et filer aux sous-traitants, quoi. C'est facile, hein, de faire comme ça. Et puis, la santé, on s'en fout.
Ça, c'est le réfectoire. Hein. Je suis dans l'antre, mais ça, en plus, c'est dans le hangar, en fait. Hein.
Ouais. Ils nous ont fait un beau vestiaire avec une belle cantoche pour pouvoir se restaurer et reconstituer ses forces de travail.
Dans le hangar même. Mais là, l'odeur est différente, ça sent la cuisine. Hein.
Oui. On a des cuistots chez nous, hein. Il y a des peintres, mais on est des bons cuistots aussi. Hein.
J'en doute pas.
Bonjour.
Bonjour, enchanté, Pascal.
Ah, je me lève quand même.
Merci.
Michel.
Croisons, toi, ici.
Joseph.
Joseph, 33 ans, oui. Peinture.
Ah oui, peinture, oui.
Et alors le cancer dans les ateliers de travail, on n'en parle pas beaucoup.
Non, non, pas trop d'abord. On pense pas à tout ça. La preuve, on ne fait pas attention trop non plus.
Pourtant, vous en avez conscience ou pas?
Des fois, oui. Je devrais y penser, il faut me protéger, puis le lendemain, on n'y pense plus. On s'y fait. Alors, on sent même plus l'odeur à force. Puis des fois, pour 5 minutes, on dit « Oh, ça sert à rien, on peut mettre de gants, on peut mettre de masque, on n'a pas le temps, on se dépêche. Et... » Puis peut-être qu'on y pensera plus tard quand on aura le cancer. Pour l'instant, ça ne nous choque pas, on n'a rien. Et l'ancien collègue de peinture, ouais, ils sont morts à 55 ans, quel âge? 55, 54. Hein. Ils ont eu du sang dans les urines, ils ont eu un cancer de quoi, je sais pas. Vergès, tout ça. Il y a 5 ou 6, quoi. Plus ceux qui sont morts après aussi, pas longtemps après, quoi. Ah ouais. Normal, mais enfin bon.
Normal?
Non, pas normal, mais bon.
Ça a été reconnu comme maladie professionnelle ou pas?
Je sais pas, je crois pas. Hein. Reste pas avec le wash primaire et le primaire. Il y a des problèmes aussi, lui, à la santé. Ils l'ont évacué d'ici, il est parti.
Pourquoi wash primaire et primaire?
C'est la première couche qu'on met d'accrochage sur la dent avant de mettre la peinture blanche ou de couleur. Et ils supportaient plus. Donc ils ont changé de service. C'est tout ce qu'ils ont fait. Après, on te déplace. Hein. Ça coûte moins cher.
Et vos salaires, une fourchette des salaires en atelier peinture?
Moi qui ai 30 ans d'Air France, je suppose qu'à 2800 euros. Quoi. Enfin, avec les nuits, les dimanches.
Non, avec les nuits.
2005, faire route. Hein. Les fonds travaillent la nuit, on fait 3 nuits ou 4 nuits par mois. On fait 3 dimanches par mois. On a la prime d'essence, on a tout dedans. Quoi. Ah, je préfère la nuit, moi. On est plus tranquille.
Il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de chef.
Et voilà, c'est fini.
On va être malade ce week-end, donc.
Oui, il y a des chances.
Non, le truc, c'est que tout le monde fait la direction, mais aussi les gars, ils font le raisonnement protection individuelle. C'est-à-dire qu'il y a une nuisance dans le travail, la seule solution qu'on a, c'est de se protéger. Et finalement, c'est ce qui arrange bien des patrons, parce que c'est quand même ce qui coûte moins cher. En plus, ça permet de culpabiliser. Alors là, à partir du moment où il y a un problème, on dira, mais est-ce que tu avais tes protections individuelles? C'est le passe-partout, ça. Tu l'avais, c'est bien. Tu ne l'avais pas, c'est de ta faute. Et ça dédouane la direction en disant, nous, on fait ce qu'il faut. On donne des masques, on donne des gants. Maintenant, vous débrouillez. Hein. Puis en donnant même des petites responsabilités. On nomme un gars responsable de l'équipe. Alors, il va engueuler le pote qui n'a pas mis le masque. Et en plus, les gars qui font ça, souvent, c'est par sympa. Enfin, c'est des mecs bien. C'est parce qu'ils sont soucieux de la santé de leur pote. Puis pendant ce temps-là, le patron, lui, il achète des gants et des masques, mais il veut pas changer son mode de fonctionnement pour protéger la santé de ses employés. Hein. Parce que s'il devait se pencher sur le problème en disant le travail, il faut qu'on le fasse différemment, et le centre du travail, c'est préserver l'individu, ça leur coûterait beaucoup plus cher. Enfin, c'est comme pour tout le reste de la société, tant que c'est les patrons qui dirigent la société, qui dirigent tout, ils le font que pour l'argent, que pour les profits. Et tant que ça sera pas remis en cause, on n'y pourra pas grand-chose. Alors on se battra au pied, au coup par coup, pour avoir un peu de meilleure protection, pour pouvoir respirer telle cochonnerie, mais il faudrait que l'État, que les services de santé de l'État puissent aller voir un peu partout dans les entreprises ce qui s'y passe.
Responsabilité des pouvoirs publics, responsabilité des employeurs qui peuvent être vus comme coupables d'homicide involontaire dans cette mise en danger de la vie d'autrui. Alors il était normal qu'on se tourne du côté des employeurs, ou du moins de ceux qui ont la responsabilité de la sécurité dans une entreprise comme Air France Industrie. On a joint Monsieur Giraud, qui est en charge de QSE, c'est-à-dire qualité, sécurité et environnement.
Bonjour, Pierre Giraud, directeur adjoint QSE et développement durable d'Air France Industrie, QSE pour qualité, sécurité au travail et environnement. Les services médicaux lancent actuellement une étude épidémiologique pour voir ce qu'il en est de l'exposition active ou passive à des produits cancérigènes. Nous travaillons à l'aménagement permanent des hangars et des ateliers, et sur la base des études épidémiologiques rendues par les services médicaux.
Mais il n'y a pas d'études épidémiologiques, puisque vous venez juste d'en commencer une.
C'est vrai. C'est vrai.
En ce qui concerne les maladies, je visitais le hangar où vous faisiez à la fois la peinture, le décapage des avions, c'est ça? C'est un hangar qui est à Orly?
Il y a effectivement un hangar à Orly, je vous le confirme, dans lequel existe un atelier peinture. C'est une activité importante pour nous.
L'hangar n'était pas du tout aéré.
Je ne doute pas que, dans le cas que vous évoquiez, les différentes suggestions ou remarques vont se trouver prises en compte.
Écoutez, c'est étonnant que ce soit moi qui soit obligé de vous pointer du doigt les dysfonctionnements de la production Air France.
Prenons ça comme une contribution complémentaire. Et pourquoi insistons-nous autant sur les équipements de protection individuelle, les EPI nécessaires? Pour une raison toute simple, on constate au fur et à mesure du retour d'expérience sur les accidents du travail que le port des EPI est une garantie. Ça permet clairement...
Je vous parle des cancers?
Oui, mais c'est un autre sujet très important, le port des EPI au quotidien, franchement.
Par rapport au cancer?
Il y a... sur le fond... Il est toujours possible d'améliorer la protection des salariés. Sur la forme, il y a sur l'ensemble du périmètre industriel des projets très conséquents. Projets sur les caisses à outils, les outillages et au sein des installations industrielles, une méthode de qualité permet d'améliorer l'organisation même du travail. C'est la méthode intitulée 5S.
5S, c'est quoi? C'est pas ce qui concerne la propreté?
Effectivement, c'est le rangement, la manière de débarrasser les postes de travail. Tout ça, c'est un ensemble qui est porté par le management.
Pour éviter les cancers, la propreté, c'est très utile.
En tout cas, je vous confirme que ces risques-là, nous essayons de les maîtriser au mieux.
En ce qui concerne les activités que vous sous-traitez?
Pardonnez-moi, mais je ne souhaite pas évoquer la sous-traitance en tant que telle, puisque, sauf erreur, ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est la question de la prévention et de la sécurité au travail.
Sur les cancers professionnels, il y a eu des reconnaissances en maladie professionnelle, non?
Là, clairement, ce sont des dossiers beaucoup plus confidentiels et qui concernent des personnes. Ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que nous accordons la plus grande attention à chaque situation individuelle qui est susceptible de relever d'une maladie professionnelle.
Alors, c'est pas le bruit de quelqu'un qui se lave les mains, c'est ce que vous entendez derrière. C'était une petite ambiance comme ça, sonore. Vous savez comme on en a dans la base où j'y suis. En tout cas, on remercie Monsieur Pierre Giraud, que vous venez d'entendre, qui est en charge de la prévention en matière de produits cancérigènes à Air France Industrie. Une brève conclusion par Gérard Filoche, auteur de La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le serait-il pas? Je rappelle que Gérard Filoche, comme vous le savez, est inspecteur du travail.
Madame Parizeau, présidente du MEDEF, elle a dit une phrase terrifiante. Je cite, « La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. » De la même façon, quand elle dit « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Ce qui est une apologie perverse, mais une apologie quand même de la barbarie. Alors, quand vous entendez ça, comment vous voulez ensuite convaincre un employeur de dire « Investissez dans la prévention ?» Investissez dans la protection des salariés. Respectez le code du travail qui vous l'impose. Écoutez-moi, moi, inspecteur, qui viens vous faire des mises en demeure. Et comment vous voulez? C'est tout à fait contradictoire. C'est deux philosophies qui s'expriment dans les médias culturels. C'est un vrai combat. Et donc, quand vous enquêtez sur les maladies professionnelles, vous êtes au cœur de ce combat.
Merci à tous, mais c'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Madame Nahal et à ses enfants. Merci à Jackie, Pascal et Philippe, à Orly. Merci à Jean-François Guéral, Anita Beaumoni et au Giscop. Et merci à Christophe Coutenceau, Gérard Filoche et Maître Jean-Paul Ternissier. À lire d'Anita Beaumoni, travailler peut nuire gravement à votre santé, paru aux éditions de La Découverte. La technique aujourd'hui, Eric Morin et Michel Bézikian. C'est Yann Chouquet et Coyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, s'occupe du répondeur dont le numéro est 0156 40 37 37.